Vous écoutez, on lit pour vous.
Les entreprises tenues de limiter le stress au travail. Un dossier de Louise Leduc, paru le 14 septembre 2025 dans la presse. L'excès de stress professionnel ne mène pas seulement à l'épuisement ou à la dépression. Au Québec, au moins 20% des infarctus et autres incidents coronariens subis par des employés de bureau lui seraient attribuables, selon de nouvelles données obtenues par la presse. Face à ce genre de constat alarmant, la loi oblige désormais les employeurs à protéger l'intégrité psychique de leurs travailleurs. Quand le stress professionnel abîme le cœur. C'était un dimanche. Noël approchait et Claire se baladait sous de fins flocons en compagnie de son chien, le souffle court. Ma gorge se serrait et je peinais à marcher tellement j'étais fatigué, se souvient la Montréalaise. Adepte d'éreintantes excursions en montagne et à vélo, elle imagine alors faire un peu d'asthme et choisit de dormir plutôt que de se précipiter aux urgences du centre hospitalier de l'Université de Montréal, CHUM, convaincue que l'attente y serait interminable. Le lendemain, au triage, ses signes vitaux affolants bouleversent ses prévisions. On me lance une jaquette et m'amène en unité de choc sur une civière. Une plaque obstruait à 95% une artère coronaire majeure et risquait de provoquer la mort. « J'étais sidéré », raconte la mère de famille. « J'avais 51 ans, j'étais sportive, je mangeais santé et je ne fumais pas. » Avant de survivre à ce cauchemar, il y a 13 ans, Claire ignorait ce que la science démontre aujourd'hui clairement. À lui seul, le stress peut endommager le cœur, même chez les personnes ayant d'excellentes habitudes de vie. À l'époque, elle occupait un poste de cadre académique ultra exigeant. Ses deux parents avaient perdu la vie à 4 mois d'intervalle, et une grève étudiante sans fin transformait les campus québécois en champ de bataille. Aucune de ces épreuves ne l'a freinée. Mon employeur m'a toujours soutenu. Je ne le blâme surtout pas, tient-elle à préciser. Je me suis moi-même coulé parce que je ne connaissais pas mes limites. Nous lui avons accordé l'anonymat à sa demande pour protéger leurs relations. Des malheurs évitables. Claire aurait-elle évité l'infarctus si elle avait ralenti la cadence? Impossible à dire. Mais les ravages du stress professionnel sur le cœur et sur la santé psychologique sont bien établis. Et selon l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ, des centaines de milliers de Québécois y sont exposés. C'est pourquoi protéger l'intégrité psychique des travailleurs est devenu obligatoire en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Les employeurs ont eu 4 ans pour identifier et corriger les situations qui peuvent mettre la santé en péril. De la surcharge de travail aux injustices en passant par le manque de soutien, de reconnaissance ou de pouvoir décisionnel. À partir du 6 octobre 2025, ces facteurs de stress pourront être dénoncés confidentiellement à la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, CNESST, comme peut l'être toute situation dangereuse. Si l'employeur a bel et bien failli, il pourrait devoir mettre en place des correctifs et mesures de contrôle et ultimement avoir une amende à payer, nous a précisé la CNESST par courriel. On veut réduire le risque dans l'environnement de travail pour éviter que la personne ne tombe malade, au lieu d'intervenir auprès d'elle une fois que le mal est fait, explique pour sa part Nectaria Nikolakakis, conseillère scientifique à l'INSPQ. La résilience au stress varie d'une personne à l'autre, reconnaît-elle, mais en santé publique, on ne peut pas intervenir sur la personnalité des gens. Et puisque les dégâts provoqués par le stress contribuent à engorger les cliniques et hôpitaux, l'enjeu est collectif. Le Centre de recherche du CHU de Québec Université Laval l'a démontré en suivant, à partir de 1991, près de 6 500 employés de bureau qui n'avaient à l'origine aucun antécédent cardiovasculaire. Au bout des deux décennies suivantes, 561 hommes et 262 femmes ont subi un événement coronarien, infarctus, angine, pontage, débouchage d'artère, etc. Selon l'épidémiologiste Mathilde Lavigne-Robichaud, 20 % de ces malheurs auraient probablement pu être évités en réduisant deux sources fréquentes de stress au travail, subir des exigences élevées sans marge de décision adéquate et voir ses efforts trop peu récompensés. Une revue américaine de santé cardiovasculaire publiera bientôt ses résultats. D'après l'une de ses études antérieures, parue dans un journal de l'American Heart Association, les hommes exposés aux deux stresseurs, si déçus, voient doubler leur risque de maladie coronarienne, un effet comparable à celui de l'obésité. Ces résultats restent valables même en tenant compte des autres facteurs de risque connus comme le tabagisme ou la sédentarité, précise la chercheuse en entrevue. Le stress n'a pas seulement des conséquences psychologiques, explique-t-elle. Il élève aussi la tension artérielle et stimule la libération d'hormones comme le cortisol et l'adrénaline. Avec le temps, les artères durcissent, rétrécissent et des plaques peuvent les obstruer. Même un mode de vie sain, comme celui de Claire, ne suffit pas à empêcher cette dégradation appelée artérosclérose. Et celle-ci pourrait vraisemblablement s'aggraver quand le stress au travail pousse, de surcroît, à mal manger ou dormir, à éviter l'exercice ou ses amis, à fumer ou boire plus d'alcool. Selon Mathilde Lavigne-Robichaud, intervenir à la source jouera un rôle crucial dans la réduction des risques, puisque les gens ont souvent peu de prise sur leur environnement de travail et ils y passent une énorme partie de leur vie éveillée. Des recherches montrent déjà que la tension artérielle peut diminuer quand le contexte de travail s'améliore. En attendant, elle encourage les travailleurs soumis à de fortes pressions professionnelles à informer leur médecin. Évaluer si un suivi médical et des interventions préventives sont nécessaires permettrait de mieux gérer ce risque. Apprendre à s'apaiser. Au CHUM, l'équipe de cardiologie constate chaque jour combien le stress de toute provenance ronge les patients. Travail, famille, finances, actualité. Contrairement au taux de cholestérol, il n'est pas facile de le mesurer, souligne la docteure Lynn Bérubé, cardiologue. Mais nos cliniques sont assurément remplies de gens anxieux. Avoir peur de mourir induit aussitôt du stress, même si tu n'en avais pas avant. Le stress figure donc parmi les facteurs de risque que les patients sont encouragés à réduire pour éviter que leur maladie ne s'aggrave ou ait une issue fatale. Plusieurs doivent commencer par reconnaître ces nombreux symptômes, rapporte la docteure Pascale Lehoux, psychologue clinicienne super spécialisée en cardiologie. Maux de tête, difficultés à digérer ou à dormir, graisse abdominale, larmes, irritabilité, envie accrue de fumer, manger ou boire de l'alcool. Plusieurs stratégies, comme la cohérence cardiaque, la pleine conscience ou l'activité physique, peuvent aider à réguler ces émotions, conseille-t-elle. Mais parfois, c'est la place accordée au travail qui doit changer. Répondre aux courriels le soir pendant notre période de détente peut réactiver notre système nerveux, illustre la docteure Lehoux. Dans bien des cas, prendre du recul et apprendre à mettre ses limites suffit. Mais certains patients, dit-elle, ont déjà conclu qu'ils devaient occuper un emploi moins stressant, plus valorisant ou mieux adapté à leurs valeurs. Vous écoutez, les entreprises tenues de limiter le stress au travail. Un dossier de Louise Leduc, paru le 14 septembre 2025 dans la presse. 5 sources majeures de stress professionnel. Échéances insensées. Patron peu disponible ou contrôlant. Manque de reconnaissance pour le travail accompli, etc. 6 grandes sources de stress professionnel peuvent provoquer des maladies cardiovasculaires. Comment remédier à 5 d'entre elles et qui court le plus de risques? Voici ce qu'en dit l'Institut national de santé du Québec. INSPQ. 1. Surcharge de travail. Situation typique. Jongler avec une masse de dossiers. Devoir se concentrer longtemps et intensément. Faire face aux interruptions constantes, aux échéanciers serrés, aux demandes contradictoires ou encore manquer de ressources pour répondre aux exigences. Principale victime. 43% des gestionnaires. 42% des travailleurs de la santé et des services sociaux. Comparativement à 31% de tous les travailleurs québécois. Quelques solutions. Ajouter des ressources d'appoint en période de surcharge. Allouer du temps pour gérer les imprévus. Tenir compte des capacités des individus. Réajuster les priorités. 2. Faible pouvoir décisionnel. Situation typique. Ne pas avoir son mot à dire sur la façon de travailler ou la cadence, ou encore sur les changements dans l'entreprise. Ne pas pouvoir prendre d'initiative, apprendre ou exercer sa créativité. Principale victime. 46% des soignants et travailleurs sociaux. Comparativement à 35% de tous les travailleurs québécois, 16% des gestionnaires, ce qui en fait les moins touchés de tous. Quelques solutions. Offrir l'horaire variable pour permettre aux travailleurs d'aménager leur temps de travail, les consulter à toutes les phases des changements organisationnels, leur offrir des formations et des congés pour études afin qu'ils développent leurs compétences. 3. Reconnaissance insuffisante. Situation typique. Toucher un salaire inférieur à celui de collègues pour les mêmes efforts. Ne pas bénéficier de sécurité d'emploi. N'avoir aucune perspective de promotion. Être évalué sans considération pour la complexité du travail accompli. Plus le déséquilibre entre les efforts et la reconnaissance est élevé, plus les risques à la santé sont importants, car cette iniquité mine l'estime de soi. Écrit l'INSPQ. Principale victime, 36% des enseignants, comparativement à 35% de tous les travailleurs québécois, 14% des gestionnaires les moins touchés de tous. Quelques solutions. Reconnaître les efforts de ses employés de façon discrète, répétée et sincère. Rémunérer les heures supplémentaires. Célébrer les réussites d'équipe. 4. Soutien insuffisant du supérieur immédiat. Situation typique. Avoir un supérieur peu disponible ou fermé aux opinions divergentes. Ne pas pouvoir compter sur son écoute, ses conseils ou son aide pour résoudre les difficultés. Dans plusieurs entreprises, les gestionnaires surchargés et souvent en réunion manquent de temps pour soutenir adéquatement leurs employés. Écrit l'INSPQ, ajoutant que le soutien est primordial dans un contexte où le travail s'intensifie et se transforme sans cesse. Principale victime, 25% des soignants et des travailleurs sociaux, comparativement à 20% de tous les travailleurs québécois, 12% des travailleurs de l'information, des arts et spectacles ou des loisirs, les moins touchés. Quelques solutions. Coacher les gestionnaires sur l'écoute attentive. Limiter le nombre de leurs réunions afin de leur accorder le temps nécessaire pour soutenir leur équipe. Prévoir des rencontres individuelles régulières avec les employés. Les défendre auprès de la direction. 5. Injustice organisationnelle. Situation typique. Constater que les affinités, les liens d'amitié, le genre ou d'autres caractéristiques l'emportent sur le mérite dans la répartition des tâches, ressources, vacances ou promotions. Être tenu dans l'ignorance des éléments considérés lors des prises de décision. Principale victime. L'INSPQ n'a pas de données à ce sujet, mais 50% des travailleurs sondés par la Centrale des syndicats du Québec, CSQ, ont déclaré que l'injustice régnait dans leur milieu de travail. Chez les personnes y étant exposées, le risque des maladies coronariennes augmente de 60% et celui d'épuisement professionnel augmente de 186 % selon une méta-analyse de 72 études sur le sujet. Quelques solutions. Éviter le favoritisme en tenant seulement compte des compétences dans la distribution des avantages. Adopter des procédures claires à leur sujet et les expliquer clairement à tous les employés. Inégaux devant le stress au travail. Le stress professionnel ne frappe pas uniformément. Chez les femmes, ses effets coronariens se manifestent en général plus tard que chez les hommes. En revanche, certains traits de caractère assez courants peuvent accélérer les dégâts. Des traits qui rendent vulnérables. Les perfectionnistes, les consciencieux et les anxieux tendent à se démener plus que nécessaire au travail, une prédisposition qui risque de ruiner leur santé dans les environnements exigeants. Deux études scientifiques décrivent bien cet engrenage. Au départ, le souci de performer peut aider les workaholics à progresser et leur procurer du plaisir. Mais les pressions externes, délais serrés, efforts non reconnus, multiplication des tâches, peuvent transformer leur zèle en surengagement pathologique. Dépassés par les attentes ou craignant de ne pas y répondre, ces employés travaillent compulsivement pour compenser, incapables de décrocher. Leur stress explose et les épuise. Échapper à cette spirale est ardu, car, paradoxalement, le burn-out et le sentiment d'échec incitent souvent à s'investir encore davantage plutôt qu'à ralentir. Sortir de ce piège s'avère quand même possible, estime la docteure Pascale Lehoux, psychologue clinicienne au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. La psychothérapie permet de travailler ces enjeux et aide à développer une meilleure résistance face au stress, dit-elle. Mais la solution n'est pas qu'individuelle, rappelle Nectaria Nikolokakis, conseillère scientifique à l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ. C'est souvent l'interaction entre la personnalité et le milieu de travail qui crée le problème. Autrement dit, mieux vaut offrir des environnements sains qui ne font pas exploser la tension artérielle que de laisser aux travailleurs l'entier fardeau de la réduire une fois de retour chez eux. Des effets différents chez les femmes. Au Québec, les femmes sont en moyenne plus exposées au stress professionnel que les hommes, d'après les données de l'Institut de la statistique du Québec. Les travailleuses semblent pourtant deux fois moins susceptibles d'avoir une maladie coronarienne qui lui soit attribuable, selon une étude menée de 1991 à 2009 auprès d'employés de bureau. L'auteur de cette analyse, Mathilde Lavigne-Robichaud, croit cependant qu'un suivi encore plus long pourrait conduire à une conclusion différente. Il est possible que la maladie apparaisse chez les femmes longtemps après l'exposition au stress, avance cette chercheuse du Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval. Les dommages au cœur et aux vaisseaux se manifestent typiquement plus tard chez les femmes, notamment parce que les estrogènes les protègent jusqu'à la ménopause, explique l'épidémiologiste. Le marché du travail évolue sans cesse, souligne-t-elle par ailleurs. À l'époque où ces données ont été collectées, environ 40 % des participantes détenaient au plus un diplôme d'études secondaires, contre 11 % des participants. Les femmes étaient ainsi plus nombreuses à occuper des emplois dits « passifs », peu exigeants et offrant peu de liberté, 29 % contre 43 % et plus susceptibles d'affronter une charge de travail élevée sans marge de manœuvre, 20 % contre 15 %. Le manque de contrôle et les tâches peu stimulantes peuvent aussi se révéler néfastes. C'est simplement un type de stress différent, précise Mme Lavigne-Robichaud. Mais aujourd'hui, plus de femmes ont défoncé le plafond de verre. C'était « Les entreprises tenues de limiter le stress au travail », un dossier de Louise Leduc, paru le 14 septembre 2025 dans la presse.
quatre fois plus de services pour la même facture. Un texte de Francis Vaille, paru le 1er mai 2024 dans la presse. Les aînés le répètent. Ils préfèrent vieillir à domicile et y recevoir leurs soins. L'expansion de ces soins à domicile vient toutefois avec une imposante facture pour l'État. Que faire? Bonne nouvelle, une équipe de chercheurs chevronnés a fait d'intéressants constats sur la question. Et elle a découvert que le Québec pourrait quadrupler le soutien à domicile aux aînés dans le besoin pour une facture publique qui, d'ici quelques années, s'annonce équivalente à la projection du statu quo actuel. L'étude publiée le lundi 29 avril 2024 a été réalisée par l'équipe de Pierre-Carl Michaud de HEC Montréal avec le docteur Régent Hébert. Elle a le grand avantage de s'être basée sur une série de données fines qui permettent de bien chiffrer les coûts et les avantages directs des différentes options. Les chercheurs sont partis d'un constat inéluctable. Avec le vieillissement important de la population, il faudra doubler le nombre de places dans les CHSLD ou les maisons des aînés, de 38 000 à 75 700, d'ici 2040, soit dans une quinzaine d'années. Sans ce doublement, on se dirige vers des problèmes sociaux majeurs. Or, les places dans de tels établissements coûtent si cher à l'État, jusqu'à 153 000 $ par année, qu'il serait plus rentable d'en restreindre l'accès en incitant les aînés à rester à la maison grâce à des soins largement bonifiés. Par soins, on entend ceux qui sont exigés pour les activités quotidiennes et domestiques, se nourrir, se laver, gérer son budget, etc., de même que les soins infirmiers. Pour y arriver, d'importants changements seraient nécessaires. D'abord, les places en CHSLD et en maison des aînés seraient strictement réservées aux seuls cas très lourds, coté 10 ou plus sur l'échelle de 14 du modèle ISO-SMAF. Il s'agit souvent de personnes atteintes d'Alzheimer avancées. En revanche, les aînés à domicile en perte d'autonomie significative verraient multiplier par 4 les soins prodigués à la maison, ce qui éviterait de les transférer en institution. Par exemple, le nombre d'heures de services financées par l'État passerait d'une moyenne de 2h25 minutes par semaine actuellement à 9h40 minutes. Et ce serait 21h30 minutes pour certains cas lourds. Avec leur modèle, les chercheurs ont voulu déployer une offre de services différente de celle du modèle actuel, mais avec le même budget essentiellement. Dans le cas du statu quo, la facture de l'État passerait de 7,3 milliards aujourd'hui à 16,2 milliards en 2040, dollars constants de 2023. Compte tenu du vieillissement, le statu quo implique un bond de 99 % des places en CHSLD, donc le double. Les soins à domicile seraient plafonnés au niveau actuel, comblant 11 % des besoins. Avec leur proposition, le système ne coûterait guère moins, 15,7 milliards, mais il rendrait service à une part bien plus importante de la population. Ainsi, au lieu de combler 11 % des besoins de soutien à domicile, cette proportion financée par l'État passerait à 40 % et le volume global de services passerait de 11,7 millions d'heures à 90,6 millions d'heures par année. Quant au nombre de places en CHSLD et autres, il ne grimperait plus de 99 % mais de 33 % d'ici 2040. Les chercheurs posent deux autres hypothèses à la réussite de leur proposition. D'abord, ils augmenteraient de 30 % la contribution des usagers en CHSLD ou en ressources intermédiaires. L'actuelle contribution est la plus faible au Canada et elle ne tient pas compte du coût d'hébergement. Autre hypothèse. Une grande part des nouveaux soins à domicile serait confiée moitié-moitié au milieu communautaire et au secteur privé, comme on le voit ailleurs dans le monde, plutôt qu'au seul secteur public. cette migration permettrait de rendre de meilleurs services à meilleur coût, juge-t-il. Déjà, le Québec compte une centaine d'entreprises d'économie sociale en aide à domicile, EESAD, qui sont très actives. Le projet suppose de multiplier par 6 l'importance qu'elles auraient dans 15 ans par rapport à la projection du statu quo. Elles passeraient de 5 600 à 32 000 employés, équivalent temps complet. 2,8 milliards par année. Pour réussir un tel changement, les auteurs proposent de hausser rapidement le budget de soins à domicile. Chaque année, Québec devrait ajouter pour l'équivalent de 400 millions de nouveaux soins à domicile pour atteindre 2,8 milliards dans 7 ans. Ces fonds seraient financés par la réduction relative du nombre de places attendues en institution, ce qui implique essentiellement de réduire fortement le développement des maisons des aînés et d'en rationaliser les coûts. Le Québec n'a pas les moyens financiers, la main-d'œuvre ni les ressources pour construire et exploiter des centres d'hébergement qui répondraient aux besoins d'une population vieillissante, qui, de surcroît, préfère majoritairement recevoir des soins à domicile lorsque cela est possible. Des décisions éclairées par des données probantes s'imposent à nos dirigeants, écrivent les auteurs. Certains pourraient dire que l'économie ne serait pas aussi importante, sachant qu'actuellement, ce sont de proches aidants qui assurent ces soins à domicile bien souvent, plutôt que l'État. Pierre-Carl Michaud réplique, d'une part, que le temps des proches passés pour ces soins réduit celui pour leur travail rémunéré, dont notre économie a grand besoin. Et d'autre part, qu'il reste une part de 60 % des soins qui ne sera pas assurée par l'État, au lieu des 90 % actuels, et qui devra l'être par d'autres sources. L'idée mérite qu'on y réfléchisse sérieusement. Espérons qu'elle fasse son chemin dans l'esprit de la ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger, et du premier ministre, François Legault. C'était 4 fois plus de services pour la même facture, un texte de Francis Vaille, paru le 1er mai 2024 dans La Presse.